Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le dimanche de la Passion. Nous arrivons dans la dernière ligne droite, 2 semaines avant Pâques. Et je voudrais faire un sermon un petit peu spécial aujourd'hui pour nous rappeler que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Il ne s'agit pas simplement de se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous dans son humanité il y a 2000 ans afin de nous rouvrir les portes du paradis qui avait été fermé par Adam et Ève. La passion, elle se continue dans le corps mystique du Christ. Elle se continue dans son Église. Elle se continue dans notre pauvre pays, détruit par des gouvernants qui veulent mettre notre Seigneur Jésus-Christ dehors. C'est ça la passion. La passion, c'est le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On tolère notre Seigneur Jésus-Christ comme roi au ciel, mais on n'en veut pas sur la terre, on n'en veut pas dans la société, on ne veut pas de son influence dans la société. Et ce refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ en notre pays a un nom. C'est ce qu'on appelle le laïcisme. Le laïcisme consiste à refuser toute influence de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie publique. On tolère encore une fois, au moins pour un temps, qu'une personne puisse de façon privée adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans sa famille, dans son cœur, mais on refuse toute adoration publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la France est retrouvée au fond du gouffre à cause de cela. Alors, en face de nous, puisque nous avons des gens qui mentent à longueur de journée, ils sont tellement imprégnés de mensonges qu'ils ne peuvent plus dire un traître mot sans mentir. Et il nous faut rappeler ces grandes vérités, mes bien chers frères, que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix et que personne ne peut se sauver sans utiliser les grâces de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. On entend à droite et à gauche, beaucoup de gens nous dire, mais monsieur l'abbé, ce qui est important maintenant, c'est de sauver la République, de sauver la démocratie. On entend partout, sur toutes ces vidéos de droite et de gauche qui nous sont envoyées, on parle d'essayer de rétablir un certain ordre dans la France en disant qu'il fallait d'abord sauver la République et sauver la démocratie. Bien, bien, chers frères, je ne suis pas sur terre pour sauver la République et sauver la démocratie. Je suis sur la terre pour sauver mon âme. Pas pareil. La République de 1789, c'est quoi? C'est le règne de l'homme contre le règne de Dieu. C'est le règne social de l'homme, c'est l'humanisme de l'homme qui rejette le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la démocratie? C'est quoi? Le pouvoir du nombre. Non pas comme on l'entend beaucoup trop, le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du nombre. Et comme le nombre change tout le temps, qui dit démocratie dit changement constant. Il n'y a plus de vérité puisque la vérité dépend du nombre. Et donc le système démocratique, le système qui suit le pouvoir du nombre, détruit l'objectivité de la vérité. Donc la République et la démocratie en France, mes bien chers frères, brûlent tout ce qu'un catholique doit adorer. Et la République et la démocratie adorent tout ce qu'un catholique doit brûler. Rappelez-vous la belle phrase de Saint Rémy à Clovis, « Courbe la tête, fier sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Il nous faut en tant que catholiques, mes bien chers frères, brûler tout ce que la démocratie et la République adorent. Il nous faut adorer tout ce que la démocratie et la République brûlent. Et je crois que la passion, elle est là. La passion, elle est d'abord dans les intelligences. Qu'il est triste de voir ces faux principes pénétrer dans les intelligences. Ce poisson pourri d'abord par la tête, les faux principes de démocratie, de république, pénètrent dans les intelligences des catholiques qui sont persuadés qu'ils sont sur la terre, qu'il faut d'abord, sur la terre, sauver la république et sauver la démocratie. Je vous dis franchement, si la république et la démocratie meurent, je ne vais certainement pas pleurer. Pourquoi ? Parce que la démocratie et la République en France n'ont qu'un but, détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, en tant que prêtre catholique, je n'ai qu'un but, reconstruire à mon tout petit niveau le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Aider les âmes dont j'ai la charge directement ou indirectement, sur lesquelles je peux avoir un petit peu d'influence. Aider ces âmes à retrouver l'amitié du bon Dieu, retrouver l'état de grâce, retrouver en eux la vertu de charité, et donc retrouver en eux le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, retrouver la vérité. C'est la vérité qui nous délivrera. C'est la vérité qui nous rendra vraiment libres. La charité, c'est quoi ? C'est d'abord l'amour de la vérité. La liberté, c'est quoi ? La liberté, c'est d'abord le pouvoir d'agir dans le bien, de choisir les meilleurs moyens pour atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé, et quelle est cette fin ? Sauver la République, sauver la démocratie, pas du tout. La fin de ma vie, sauver mon âme. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme. Et je pense que la passion, elle est là. La passion est dans les intelligences. La passion du Christ est dans les intelligences qui sont trompées par les sirènes du monde moderne. Les sirènes de 1789. On nous dit, mais monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire ça parce que vous le vouliez ou non, le gouvernement de fait, en France, c'est le gouvernement de la République, et il vous faut donc accepter tout cela. Le gouvernement de la République est un gouvernement de fait, c'est vrai, mais pas un gouvernement de droit, puisqu'il est fondé sur le meurtre de l'autorité légitime, Louis XVI qui passe sous le couperet de la guillotine. La France, mes bien chers frères, c'est pas la République de 1789. Avant 1789, il y a eu 13 ou 14 siècles de foi chrétienne. Il y a 13 ou 14 siècles de foi chrétienne basée sur la monarchie chrétienne. Les gens ont le droit de suivre 1789 comme base de référence. Mais moi, en tant que catholique, j'ai le droit de suivre comme base de référence la conversion de Clovis, la nuit de Noël 496, le jour où il a été baptisé en la cathédrale de Reims par Saint-Rémy, avec plusieurs milliers de ses soldats. J'ai le droit d'honorer, mes bien chers frères, le pays catholique qui a été, au XIIIe siècle, le soleil littéralement du monde, après la ville de Rome. N'oublions pas que la France, c'est pas la France de la République. La France, c'est la France de Clovis. C'est la France de Saint Jeanne d'Arc, c'est la France de Saint Louis. C'est la France de tous ceux qui sont partis dans le monde entier pour prêcher la foi catholique. Et c'est cette France-là dont je veux. C'est cette France-là qui est la mienne. On n'arrête pas de nous parler aujourd'hui, mes bien chers frères, là aussi c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'arrête pas de nous parler aujourd'hui de la République, la démocratie. Moi, c'est pas de la République et de la démocratie dont je veux parler au niveau politique, c'est de la France. J'aime mon pays parce que la France est la fille aînée de l'Église. Même s'il est devenu une fille aînée de l'Église qui est en bien mauvaise santé spirituelle. Même si, strictement parlant, historiquement parlant, un pays comme l'Arménie a été fille aînée de l'Église bien avant nous, avec la conversion du pays par Saint Grégoire l'Illuminateur. 150 ans à peu près avant Clovis. Cependant, la France a toujours un rôle tout particulier. Et même si nous avons aujourd'hui, mes bien chers frères, des gouvernements qui ne cherchent qu'à détruire cette France catholique, nous catholiques, nous devons, à notre tout petit niveau, rétablir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela qu'il nous faut utiliser les grâces de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui veulent la République et la démocratie en France et l'anéantissement du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ en suivant ses fausses politiques. Et il y a le règne et il y a le camp de ceux qui, au contraire, veulent remplir leur cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa loi. On entend aussi, là encore une fois, je pense que ce sont des erreurs intellectuelles qui sont très graves. On entend beaucoup de gens dans nos milieux catholiques traditionnels qui croient que le salut viendra par M. Trump, M. Poutine, ou des politiciens comme Bachar el-Assad ou des gens comme cela. C'est vrai qu'il y a un petit côté sympathique chez ces gens-là quand on entend M. Trump parler publiquement du droit des enfants à vivre dans le sein de leur mère, ça fait plaisir. Quand on entend ce président ce président américain qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait plaisir. Quand on voit Poutine qui marque publiquement sa foi, même si c'est une foi orthodoxe, ça fait plaisir. Mais le salut ne viendra pas par M. Trump, par M. Poutine, par M. Bachar el-Assad. Le salut viendra par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui croient que le salut peut venir par des hommes, mes bien chers frères, se trompent. Et là encore, refusent les grâces venues de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une façon de trahir notre Seigneur Jésus-Christ, de croire qu'on peut être sauvé par des hommes. Mettez-vous une chose dans la tête, mes bien chers frères qui m'écoutez. Vous serez toujours déçus par les hommes, toujours. Vous serez toujours déçus d'une façon ou d'une autre par votre épouse, par votre époux, par les membres de votre famille, par la belle Lafitte. Parce que ce ne sont que des hommes, donc faillibles. La seule personne qui ne vous décevra jamais, qui ne nous décevra jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est homme, mais aussi Dieu. Et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui, humainement parlant, semble un échec total. En fait, c'est une victoire extraordinaire malgré les apparences. C'est au moment précis où notre Seigneur Jésus-Christ, le vendredi saint, 3h de l'après-midi, meurt sur la croix. À cet instant précis où le démon pensait avoir eu la victoire définitive, que notre Seigneur Jésus-Christ a écrasé la tête du démon. Alors, il nous faut revenir vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message de la passion. Notre Seigneur Jésus-Christ porte sa croix et nous demande de le suivre. Il nous demande de remettre dans notre cœur cette croyance, cette foi, l'espérance, la charité, corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut y avoir de salut parce qu'il est l'unique vrai Dieu, l'unique Dieu incarné. Il ne s'agit pas simplement de croire en un Dieu. Grand architecte de l'univers, il faut croire en un Dieu créateur du ciel et de la terre, mais un Dieu trinitaire, qui a voulu envoyer son Fils unique s'incarner, prendre notre chair humaine, mourir sur la croix. Voilà le message de la passion. Et voilà ce qu'il nous faut faire passer dans la vie de tous les jours. Et si la France actuelle va droit dans le mur, la France actuelle se suicide. Et comment serons-nous sauvés? Par la démocratie? Par la République? Par M. Trump? Par M. Poutine? Non, nous serons sauvés, bien chers frères, malgré les qualités indéniables de M. Trump ou de M. Poutine, nous serons sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc il nous faut, mes bien chers frères, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons, il nous faut impérativement, justement, reprendre ce grand combat pour donner à nos enfants quelque chose dont ils vont pouvoir être fiers. Qu'est-ce que vous voulez que nos enfants actuellement trouvent dans la République et la démocratie française dont ils puissent être fiers? Il n'y a rien. C'est une poubelle. Une gigantesque poubelle. Eh bien, n'hésitons pas, mes bien chers frères, à proposer à nos enfants notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. La pierre angulaire qui est rejetée par les bâtisseurs. Au jour où on parle de repentance à longueur de journée, on nous parle de repentance de tout ce qu'a fait, ce qu'ont fait nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos anciens. Il faut avoir une repentance, c'est vrai, mais pour le péché, pour nos péchés, pour mes péchés personnels. C'est ça le message de la Passion. Amener mes péchés personnels au pied de la croix pour que le bon Dieu du haut de la croix, en train de mourir pour moi sur la croix, puisse les pardonner. Il nous faut, mes bien chers frères, sauver tout ce qui peut être sauvé, au moins dans nos familles catholiques. Humainement parlant, l'Église catholique se réduit comme une peau de chagrin, mais elle demeure dans les familles catholiques, mes bien chers frères. Les quelques centaines de familles catholiques, peut-être quelques milliers, je ne sais pas, Dieu sait. Quelques centaines ou milliers de familles catholiques dans le monde, ou en France, qui conservent la foi, qui se battent pour conserver justement la noblesse du mariage, qui se battent pour conserver l'unité, l'indissolubilité, l'acceptation des enfants, qui se battent pour transmettre la foi, même si c'est un tout petit nombre, mes bien chers frères. Le bon Dieu a prévenu, à la fin des temps, lorsque je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Ça aussi, c'est la passion. Donc, il faut sauver le mariage chrétien. Il faut redonner l'autorité au père de famille, au moins dans nos familles. Respecter cette autorité du père de famille qui représente l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut sauver, redonner ces lettres de noblesse à la femme. Sauver la féminité, parce que la femme, c'est le cœur de la famille. Et le cœur de la famille, il est détruit par quoi? Il est détruit par le féminisme moderne. Il faut cesser d'avoir honte, mes bien chers frères, de notre passé. Je n'ai pas honte du passé catholique de la France. J'ai honte du passé républicain de la France, du passé démocrate de la France. Mais je n'ai pas honte du passé catholique de la France. Je n'ai pas honte de Sainte-Jeanne d'Arc. Je n'ai pas honte de Saint-Louis. J'ai pas honte de Charlemagne. J'ai pas honte du baptême de Clovis. J'en suis fier. Alors, mes bien chers frères, luttons contre tout cela, même si nous avons l'impression d'être de plus en plus isolés. Dieu seul, Dieu sait à quel point les catholiques en France, nous souffrons de ce terrible racisme anti-blanc. De manière générale, ce racisme anti-catholique de manière plus particulière. Humainement parlant, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ce racisme? Il faut présenter notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut présenter la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un dernier point sur lequel il me faut aussi insister, et ça aussi c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffrir. Quand il entend des gens qui se prétendent catholiques, essayer de nous faire croire que l'Église catholique et l'Église de Vatican II sont une seule et même Église. Notre Seigneur Jésus-Christ renouvelle sa passion quand il entend des gens essayer de mettre les crimes de Vatican II, de liberté de conscience, d'écuménisme, de collégialité, au même niveau que la foi catholique de toujours. Notre Seigneur Jésus-Christ renouvelle sa passion quand il entend des catholiques qui se disent traditionnalistes et qui déblatèrent en prétendant que le pape n'est infaillible que lorsqu'il parle ex cathedra dans un maton son magistère extraordinaire. Et que donc en dehors de ça, on peut faire ce qu'on veut. Notre Seigneur Jésus-Christ doit souffrir des larmes de sang quand il entend des horreurs pareilles. Alors nous, catholiques, même si nous sommes très peu nombreux, mes bien chers frères, prêchons la vérité. L'Église catholique n'est pas l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II est une Église fondée sur l'homme. L'Église catholique est une Église fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église catholique a les promesses de la vérité, de la vie éternelle, pas l'Église de Vatican II. Pas une Église fondée en 1965, c'est pas celle-là dont je veux, c'est pas celle-là qui mène au ciel. N'ayons pas peur de rappeler que le pape est infaillible, non seulement dans son magistère extraordinaire, lorsqu'il donne des définitions, par exemple, mais aussi dans son magistère ordinaire universel, parce qu'il rappelle ce que l'Église a toujours enseigné. Là aussi, il est infaillible. Et que donc, un pape qui nie le dépôt de la foi, qui fait tout pour détruire ce dépôt de la foi, ne peut pas être pape. Parce qu'il ne peut plus avoir dans ce cas-là les promesses de la vie éternelle avec lui, ce qui est impossible, puisque s'il est pape, il ne peut pas se tromper en matière de foi, puisqu'il a les promesses justement de cette vie éternelle. C'est pour cela, mes bien chers frères, je finirai avec cela, je m'excuse d'un sermon un petit peu décousu, un peu direct. Ce ne sont pas nos gouvernants politiques, républicains, démocrates, laïcs, que je crains le plus. Celui que je crains le plus, c'est M. Bergoglio, à Rome, qui utilise son pouvoir en se faisant passer pour le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il n'est que le pape de l'Église de Vatican II. Ce n'est pas le pape de l'Église de Vatican II que je veux suivre, mais tous les papes de l'Église catholique, depuis Saint-Pierre jusqu'à la mort du pape Pie XII. Voilà mes bien chers frères, voilà la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui se déroule devant nous. Alors comment réagir à ces choses-là? Il faut réagir en gardant ce que le dépôt de la foi, gardant ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 20 siècles. Alors, passons par la Sainte Vierge. Celle qui nous conduit à la croix, c'est Notre-Dame. Celle qui nous conduit à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle peut tout pour nous amener à cette croix. Elle fera tout pour nous amener à cette croix. Ne nous décourageons jamais. Précipitons-nous dans le cœur immaculé de Marie pour atteindre le cœur sacré de Jésus. Et ce cœur sacré de Jésus sera pour nous la porte ouverte vers le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.